Ta parole, c'est notre véritable nourriture et qui nous donne la force d'aller toujours de l'avant. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous permet en ces jours d'arriver ici encore une fois en prévision du baptême sous le thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En fait, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'Exode chapitre 20, le verset 3, car c'est celui-là notre verset de la semaine « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. En lisant ce passage, c'est Dieu qui donne la directive à son peuple. Celui qui décide d'établir une alliance avec le peuple d'Israël. Il s'est choisi ce peuple, il l'a soutenu de son propre gré, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et tout ceci dans sa pleine souveraineté et surtout dans les plans de l'histoire du salut. Le Seigneur nous a créés, celui qui connaît la ligne du salut sur laquelle il nous place. Et si je peux le répéter à d'autres termes, lorsque Jésus dit cela, il vient de résumer les 10 commandements. Parce que si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas te faire des images que tu dois adorer. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu ne prononceras pas son nom en vain. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu vas observer le jour du repos pour l'adorer. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Si tu aimes le prochain, tu ne voleras pas ses biens. Si tu aimes le prochain, tu ne vas pas convoiter ses biens. Si tu aimes le prochain, tu ne vas pas porter de faux témoignages contre le prochain. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous dire que les 10 commandements qui sont là, même si c'est 10, mais c'est un seul commandement qui est basé sur l'amour. Ce commandement ici est donné aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui donne les commandements aux enfants d'Israël. Avant que je ne revienne à sa présentation, quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », je vais d'abord parler de l'élection d'Israël. Israël n'est pas le seul peuple en cette époque, mais Dieu, dans son dessein caché, à partir d'Abraham, il s'est choisi une lignée. À partir d'Abraham, il a choisi Isaac d'entre tous les fils d'Abraham. Et parmi les fils d'Isaac, il a choisi Jacob, le frère jumeau d'Ésaü. Abraham n'avait pas seulement eu un enfant. Avant qu'Isaac ne naisse, il y avait un certain Ismaël. Après la naissance d'Isaac, Sarah est décédée et Abraham a pris une autre femme qui s'appelle Keturah. Et avec elle, il a eu beaucoup d'autres enfants. Parmi tous ces enfants-là, Dieu s'est choisi. En toute souveraineté, il a choisi Isaac. À partir même d'Isaac, il a choisi Jacob à la place d'Ésaü. Oui, nous disons souvent que Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère en collaboration avec sa maman. Mais parce que Dieu est souverain et personne ne connaît son plan, il a validé ça. Dieu a validé et il est parti avec Jacob. Il est parti avec Jacob. Ce qui veut dire que
l'élection qui vient de Dieu dépasse la raison humaine. Lorsque Dieu va vous choisir, les hommes, avec leur intelligence, ils ne sont pas capables de reconnaître la raison pour laquelle Dieu vous a choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Dieu a choisi Jacob, c'est parce qu'il l'aime lui-même. Et la seule explication qui dépasse même la raison humaine, c'est que l'élection d'Israël a seulement son motif en Dieu lui-même, en Dieu seul, dans sa souveraine liberté, parce qu'il a jugé bon que cela soit ainsi. Alors, à partir de l'élection que Dieu a opérée à travers les enfants d'Israël, cela signifie que Dieu s'engage à sauver Israël de toutes les situations difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, en Égypte, l'Éternel s'est donné pour que son nom soit glorifié à travers la libération des fils d'Israël. Pour dire que Dieu a choisi Israël comme instrument de propagation de son nom. Et il a permis que Israël puisse aller même en Égypte, faire 4 siècles d'esclavage. Mais l'Éternel savait qu'il va prendre Israël comme matériel didactique. Si vous lisez Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 3, quand Dieu choisit Abraham, il le dit, « À partir de toi, toutes les nations seront bénies. » Dieu choisit Abraham pour que toute la terre puisse reconnaître son nom et à toute souveraineté. Ce n'est pas à dire que Abraham était bon plus que les autres. Il l'a choisi d'une manière souveraine. Et Dieu, dans ce plan du salut, en Jean 1, 11 à 12, vous trouverez que la parole de Dieu dit, parce que Jésus, il est aussi de la lignée de David, David qui est aussi le fils d'Abraham. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À travers Jésus-Christ, nous autres aussi qui sommes des païens, nous recevons la grâce. Cette bénédiction qui avait été donnée à travers Abraham, lorsque nous nous alignons dans la voie de suivre Christ, nous en sommes aussi bénéficiaires. C'est pourquoi l'Éternel que nous suivons, nous devons connaître qui il est et pourquoi nous le suivons et pourquoi il est le seul à être adoré. Je reviens sur la présentation de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Adonai, Yahweh, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel se présente d'abord. Pourquoi il se présente? Il doit dire qui il est pour que lorsque vous allez lire, si vous aviez l'intention de refuser ce qu'il va dire, sachez d'abord qui il est. Peut-être que, avant de vous dire les 10 paroles, il doit d'abord vous dire l'origine de ces 10 paroles. De façon que vous puissiez y adhérer librement. Vous y adhérez librement, tout en sachant l'origine. Et lorsque vous allez y adhérer, vous devez savoir qui est ce Dieu-là qui se présente. Et le peuple qui marche avec Dieu, ils doivent savoir que Dieu est leur acquis et ils ne doivent jamais mettre en question sa divinité et sa souveraineté. Présente. C'était une formule qui était utilisée, même par l'ancien Proche-Orient. Les suzerains devraient chaque fois se présenter devant le vassal avant de faire le rappel de ses bienfaits. Et après, il va enchaîner avec les ordonnances que le vassal doit respecter très scrupuleusement. Il doit d'abord savoir s'il a affaire à qui avant de s'engager à suivre ses préceptes. Lorsque Dieu s'est présenté, après s'être présenté, il a rappelé un fait historique qui est majeur dans l'histoire des enfants d'Israël. Il a rappelé, c'était la libération du peuple d'Égypte. Et c'est pourquoi même, avant de donner le premier commandement, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Lorsque tu vas le suivre, il faut d'abord savoir à combien de fois il a été bon pour toi, pour que tu sois en mesure de voir que même les commandements qu'il te donne ne sont pas un esclavagisme. Alors lorsque Dieu se présente, il nous montre toujours sa bonté. Il nous montre toujours si nous reconnaissons ce qu'il a déjà fait pour nous. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel, chaque jour, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté pour toi. Pour que, avec ta conscience, avec ta foi, tu puisses reconnaître que si je viens de me réveiller encore une fois ce matin, c'est parce que l'Éternel a été beau pour moi. Si je peux aller au troisième commandement. Le troisième commandement dit ceci. Ne prends pas les noms de ton Dieu en vain. À d'autres français, on peut dire, tu ne profaneras pas les noms de ton Dieu. Tu ne vas pas profaner les noms de ton Dieu. Ceci peut nous poser, peut nous amener à nous poser la question de savoir si réellement Dieu a un nom. Est-ce que quand nous disons Dieu, ça veut dire que c'est un nom? Dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, les mots Dieu, les mots Elohim, tous ces qualificatifs-là que nous donnons à l'être suprême, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui les faisons par notre manière de parler. Vous allez vous souvenir que dans ce même livre d'Exode, le chapitre 3, au verset 14, lorsque Dieu appelle Moïse pour qu'il l'utilise dans la libération de son peuple en Égypte, Moïse lui pose la question. Si ce peuple-là me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? C'est Dieu-là, du buisson ardent, qui ne se consume pas. Il avait dit ceci, en hébreu, Yehéye Asher Yehéye. Yehéye Asher Yehéye. C'est ça ce qu'il avait dit en hébreu. En français, on le dit souvent, je suis celui qui je suis, je suis celui qui je serai, ou je serai celui qui je suis. Il n'y a pas de nom là-bas. Là, il n'y a pas de nom. Là, tu ne peux pas dire qu'il a donné son nom. Et donc, lorsque tu seras devant ces gens-là, s'il te demande qui je suis, il faut dire, c'est je suis qui m'a envoyé. Quelqu'un qui s'appelle « Je suis celui qui m'a envoyé ». Jésus aussi avait prononcé ce mot-là devant les pharisiens à Jean. Quand il avait dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous pouvez quand même dire « J'étais ». Même la souveraineté de Dieu va au-delà de la grammaire humaine. Je sais, Papa Collins enseigne le français. Je ne sais pas si là il y a une concordance d'état. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ça, c'est Dieu. C'est ça, les dieux que nous adorons. Alors, ici, dans cette phrase-là, qu'il avait prononcée, Yehéye, Asher, Yehéye, c'est dans cette phrase-là où il y a le verbe haya. Le verbe haya signifie être. Le verbe être en hébreu, c'est haya. Ce verbe-là, quand il signifie être, ça peut être au présent. Ça peut aussi être au futur. C'est pourquoi on peut traduire cette phrase étant « Je suis celui qui je suis, je suis celui qui je serai ou je serai celui qui je suis. » Et en Apocalypse chapitre 1er, ce « Je suis-là », il se présente comme celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ça, c'est être Dieu qui règne sur l'univers, qui est au-delà même du temps, au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer comme histoire. Il est au-delà. Ce qui signifie que même ce nom-là de Jésus, c'est dans ce nom-là où les écrivains de la Bible, ils ont trouvé le mot Yahweh. Le Yahweh, là, vient de Yehéyé. Yahweh. C'est un tétragramme de YHWH. Oleli Yahweh. Et les Israélites, à cause de la grandeur qu'ils donnent à ce Dieu-là, c'est un mot qui ne porte pas de voyelle. On les lit tout simplement, mais il n'y a pas de voyelle. YHWH. Et là, on va lire Yahweh. Dans la Bible hébraïque, dans la Bible, les Israélites ne prononcent jamais ces mots-là. Tu peux être en train de lire, mais quand tu vas...
ce tétragramme-là, il ne faut pas prononcer, parce qu'on ne doit pas prononcer le nom de l'Éternel n'importe comment. À la place, ils ont dit, il faut dire Adonai. À la place, vous dites Adonai, qui signifie aussi mon Seigneur. Alors, le vrai nom qui a été donné par Dieu, c'était Yahweh, ce Yahweh-là. Mais interdit d'être prononcé. Alors, à sa place, on prononce Adonai. Le témoin de Jéhovah, lorsqu'il parle du vrai nom de Dieu, ils nous disent que nous autres, nous n'avons pas Dieu parce que nous n'avons pas Jéhovah. Oui, peut-être, ils ont raison quelque part, parce que le nom de Dieu, c'est Yahweh. Ils ont malheureusement aussi profané ce nom-là. Lorsqu'on prononce déjà Jéhovah, c'est déjà profaner le nom de Yahweh. Ils ont pris maintenant les voyelles de Adonai, ils ont mis dans ce tétragramme et le A plus le Y là en hébreu, ça va donner Yé et ça devient Yehovah. Lorsqu'ils mettent ces voyelles dedans, c'est déjà profaner le nom de Dieu. Si tu prononces Yehovah, tu profanes parce que tu viens d'ajouter quelque chose dans ce nom-là. Alors, ce nom-là qui signifie « je suis », qui je suis, nous amène même à dire que l'Éternel, selon sa grandeur, on ne peut même pas exprimer totalement les mystères de Dieu, parce que ce nom-là aussi n'exprime pas réellement un nom. Ça veut dire que il n'a pas de nom, c'est tout. Nous reconnaissons seulement un être suprême qui est au-dessus de nous. Alors, cet être suprême-là, c'est celui qui donne les commandements aux enfants d'Israël. Comment ils doivent marcher avec lui. Alors, dans cette phrase-là, ce verset que nous avons lu, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas prononcer ces noms? Alors, le mot-là, qui a été traduit par vain, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce nom-là peut encore être traduit par mensonge ou fausseté. Tu ne dois pas prononcer des mensonges concernant le nom de l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que ce commandement ici nous interdit d'utiliser le nom de Dieu dans une mauvaise intention. Il y a des fois où nous pouvons utiliser le nom de Dieu pour vouloir couvrir notre mensonge, ou peut-être innocent, vous voulez qu'il soit jugé et condamné, et vous utilisez le nom de Dieu. Nous jurons au nom de Dieu. Jésus, il avait défendu, ne jurez pas. Parce que quelquefois, nous le faisons, alors qu'à l'intérieur, il y a du mensonge. Il y a des gens qui savent dire, Hakiyamu. Vous jurez, Hakiyamu. Hakiyamu. Est-ce que réellement c'est pourquoi vous jurez, c'est réellement la justice de Dieu? Et au nom de Dieu, plusieurs sont plongés dans l'ignorance. Et aujourd'hui, au nom de Dieu, les gens sont rassonnés. Au nom de Dieu, il y a deux prières de $50. Au nom de Dieu, il y a deux prières de $2000. Parce que ton problème ici, c'est un grand problème. En tout cas, il faut que tu donnes $2,000. Il faut que tu vendes ta parcelle et tu nous amènes de l'argent. Ça, tout ça, au nom de Dieu. C'est à des choses comme ça qu'on dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est-à-dire, le nom de Dieu a une valeur qui doit être respectée. Voici là où aussi nous utilisons ce nom. Quelqu'un vient de voler et il dit, merci Dieu parce que tu m'as gardé, on ne m'a pas attrapé. Tu es en train de coucher avec la femme d'autrui ou la fille d'autrui. Et en fait, tu dis, on a fait un mzuri mwa kubariki. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne peux pas dire ce nom-là et tu le dis. Ce qui signifie que le nom de Dieu, nous devons le respecter dans notre manière d'être, notre manière, parce que Dieu est redoutable. Le deuxième commandement, ça c'était le troisième. Le deuxième commandement stipule ceci. Tu ne te feras aucune image taillée. Ou dans d'autres versions ou un autre français, on peut dire, tu ne te feras pas de statue. Ou bien, tu ne feras pour toi aucune image travaillée. Dans l'Ancien Testament que nous sommes en train de lire cette semaine, on connaît plusieurs images, et même le peuple d'Israël. Nous devons nous souvenir que ce peuple à qui Dieu donne ses commandements, c'est un peuple qui vient de faire 4 siècles en Égypte, là où il y a l'adoration de plusieurs dieux. Et cela signifie que les Israélites, là, ils avaient beaucoup d'imagination, des statues dans leur intellect. Alors, ce qui signifie qu'en un moment donné, pour eux, c'était vraiment très facile de se faire des images taillées. On peut se faire des images taillées dans les animaux, on peut se faire des images taillées avec des arbres. C'est par exemple, je ne sais pas si ailleurs il y en a aussi. Dans ma culture maternelle, il y a un animal qu'on appelle totem. Chaque groupement, chaque collectivité a son totem. Et c'est interdit à ceux-là de manger la viande de cet animal. Si c'est une vache, si c'est un oiseau, si c'est quoi, c'est interdit. Ça veut dire que dans la culture, quelque part, dans notre imagination, nous pensons que dans cet animal totem, nous pouvons y trouver à quelque sorte une protection. Image. Ça, c'est une image que nous taillons nous-mêmes dans nos têtes. Dans la Bible, dans la marche des enfants d'Israël, il y a eu deux choses qui se sont produites. Où il y a eu des statues, des images. La première, c'était le serpent des reins, élevé au désert par Moïse. Quand les enfants d'Israël étaient au désert, ils ont rencontré des serpents venimeux. Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent des reins, serpent de cuivre, qu'il le suspende sur un arbre. Si quelqu'un se trouve mordu par un serpent, il va lui suffire de regarder et il sera guéri. Et celui qui ne regardait pas, celui qui était orgueilleux, il mourait de ces venins-là. C'est Dieu qui a autorisé ça. Dieu l'a autorisé. Mais pourquoi Dieu l'a autorisé? Dieu ne l'a pas fait pour qu'il soit adoré. Ce serpent-là ne devait pas être adoré. Mais Dieu l'a fait comme matériel didactique et préfiguration du Christ qui va apporter la guérison totale à quiconque va croire. C'est pourquoi à Jean 3, 14 à 15, l'auteur se réfère à ce serpent d'air. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'air, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Israélites qui ont perdu leur vie à cause du serpent, à cause des serpents, du venin des serpents dans le désert, ils étaient comme nous aujourd'hui qui perdons notre vie dans le péché sous le joug du diable. Nous trouvons notre libération, nous trouvons notre vie lorsque nous regardons ce Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Une autre représentation dans l'Ancien Testament, c'était, à un moment donné, Moïse était monté sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, le peuple a murmuré devant Aaron. Et le peuple a poussé Aaron de fabriquer l'image des veaux d'or. Et là, le peuple lui-même a décidé d'adorer. Parce que Moïse venait de faire longtemps à la montagne. Et le peuple a dit, nous sommes maintenant seuls ici dans le désert. Fabriquons-nous nous-mêmes et veaux d'or que nous allons adorer. Le peuple a fabriqué, il a commencé à adorer. Mais parce que ce n'était pas dans la souveraineté de Dieu, ce n'était pas dans les plans du salut de Dieu, lorsque Moïse sortit de la montagne, et d'ailleurs, selon la tradition de la Bible, quand il a vu ça, Dieu venait de lui donner la tablette des 10 commandements. Il l'a jeté à cause de l'émotion, parce qu'il s'était fâché. Le peuple au cou raide, le peuple qui n'a pas la foi à ce Dieu, qui a été capable même de fondre la mer rouge. Ils ont délaissé ce Dieu-là qui a été capable rouge pour se donner à Evo d'or, qui ne respire pas, qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui ne fait rien. Ça veut dire que Dieu que nous adorons, il veut qu'il soit inscrit dans nos cœurs, que dans les représentations, quelles qu'elles soient. Dieu sait que lorsque nous allons mettre une représentation quelconque, quelque part dans notre vie, dans notre église, dans notre maison, comme il nous connaît très bien, il sait que nous pouvons chavirer très rapidement et donner l'adoration à cette image-là au lieu de la donner à Dieu qui représente cette image. C'est pourquoi il dit directement, il ne faut pas mettre une image ou ne tailler rien. Ce Dieu-là, c'est un esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut que nous les placions dans notre cœur, qu'il soit inscrit dans nos cœurs. Parce que lorsqu'il est inscrit dans nos cœurs, partout où nous passerons, nous irons avec lui et nous allons le vénérer là-bas. Mais lorsque nous nous faisons des images taillées, les images, nous n'allons pas marcher avec. Nous pouvons les laisser à la maison. Alors, si nous les laissons à la maison, est-ce que ces images seront en mesure de nous protéger là où nous sommes? Est-ce que nous aussi, là où nous sommes, nous serons en mesure de les vénérer pendant que nous les avons abandonnés? C'est pourquoi le problème de l'homme, c'est souvent la foi. Nous avons foi ou confiance à ce que nous voyons. Et le plus grand problème de Dieu, c'est qu'il est invisible. Et il est toujours facile de croire à ce que nous voyons à côté que de croire à ce Dieu-là qui est invisible. Alors Dieu veut nous attirer. Il attire notre attention. Nous devons chaque fois rebobiner notre histoire. Les hauts faits que l'Éternel a accomplis, comme il a rappelé aux Israélites, vous devez vous rappeler que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Quand on se rappelle de là où le Seigneur vous a tiré, vous allez mener une vie d'adoration. Une vie qui va uniquement adorer ce Dieu-là. Alors, le verset a dit que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. On peut se poser la question, pourquoi Dieu interdit d'autres dieux? Il le déclare lui-même qu'il ne peut jamais tolérer que son fidèle fasse des images. Que ça soit sur la terre, que ça soit dans les cieux, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans la profondeur. Parce que lui, il sait que partout là, c'est comme David l'avait dit, si je vais au ciel, tu es là. Si je vais dans la profondeur, tu y es. Où est-ce que je peux fuir? L'Éternel est souverain partout. C'est pourquoi il dit que partout où nous serons, nous n'avons pas raison de nous
présenter ou de nous faire des images taillées. Alors, c'est un Dieu jaloux, un Dieu zélé, un Dieu passionné qui exagère avec la passion. Souvent, quand on dit que quelqu'un est jaloux, c'est un caractère négatif. C'est un caractère négatif. Alors, pourquoi maintenant c'est appliqué à Dieu? Nous devons faire ça. Ou peut-être nous devons voir la jalousie de Dieu par rapport à l'interdiction d'avoir une image de divinité devant sa face. Parce que lui dit qu'il ne peut pas tolérer d'avoir un concurrent au milieu de son peuple. Ça veut dire que la jalousie de Dieu, elle est liée à sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est ce qui fait de lui l'être qui est à part, qui est séparé, l'être qui est au-dessus de tout. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est séparé du reste. Il est séparé de sa création. Il est ailleurs que sa création. Ça veut dire la jalousie divine, c'est la conséquence de sa sainteté. On ne peut pas dire le réciproque. On ne peut pas dire que c'est parce que Dieu est jaloux qu'il est saint. Non, non. C'est parce que Dieu est saint qu'il est jaloux. Ce n'est pas la jalousie qui amène la sainteté à Dieu. C'est la sainteté qui amène la jalousie à Dieu. Une jalousie qui est positive. Parce que cette jalousie ne peut pas permettre que son peuple puisse encore se retrouver sous l'emprise de notre Dieu. Et Dieu est capable de le sauver. Et c'est pourquoi il dit, je dois me rassurer que vous tous, vous êtes entre mes mains. Parce qu'il sait que c'est entre ses mains où il y a la vie. C'est entre ses mains où il y a la liberté. Alors, lorsque Dieu manifeste sa jalousie pour nous, il y a un devoir qu'il nous donne. Le devoir qu'il nous donne, c'est que lorsque nous marchons avec lui, nous devons nous rassurer que nous aussi, nous sommes saints. Lorsque nous suivons Christ, quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es séparé du monde. Tu es séparé du monde du péché. Tu n'es plus à compter là où les autres sont. Et en ce titre, tu es séparé et tu peux être appelé saint. Et le Seigneur tient compte de ça. Il veut que nous menions une vie de sainteté. Il veut que nous menions une vie qui va nous permettre de différencier les bons et les mauvais. Mais aussi, lorsque nous marchons avec lui, il doit aussi, nous avons aussi droit à la protection de la part de Dieu. Nous avons aussi droit à la protection de la part de Dieu. Et alors, tous les peuples qui peuvent être au milieu de nous, les gens qui sont à côté de nous, voyant notre sainteté, notre manière de marcher avec Dieu, ce peuple-là doit savoir réellement que notre Dieu, c'est un Dieu exclusif. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu inclusif. Il ne va pas permettre que nous incluions d'autres qui vont prendre sa place. Il veut être à cette qualité-là de souveraineté. Il veut être le seul. Celui le seul qui doit être là. Il ne peut pas tolérer que son peuple partage son sentiment religieux avec d'autres divinités. Nous avons d'autres divinités. Peut-être le dimanche, on pourra en parler. Que nous créons nous-mêmes. Les divinités, là, c'est par exemple le travail que nous faisons. C'est par exemple même le téléphone que nous utilisons. C'est par exemple la santé que nous recherchons. Tout ça, c'est important, mais quelquefois, ça devient de Dieu. Je ne vais pas beaucoup parler là-bas parce qu'on peut y revenir le dimanche. À part ce commandement, il a donné le quatrième commandement, qui est le jour du sabbat. Nous devons respecter le jour du sabbat. Je l'ai dit au début que ce quatrième commandement, c'est le dernier commandement qui est à rapport avec l'homme et Dieu. Mais il introduit aussi le rapport entre l'homme et l'homme. Je dis, en Exode, quand Dieu dit, vous devez respecter le jour du sabbat, parce que moi, votre Dieu, j'ai créé pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé. Et vous devez aussi observer. Même les animaux qui sont dans ta maison, ils doivent aussi respecter ces jours-là. Les serviteurs, les servantes qui sont dans ta maison, ils doivent aussi respecter ces jours-là. Parce que moi, ton Dieu, j'ai créé pendant 6 jours. En Deutéronome, lorsque on ramène la loi pour la deuxième fois, on donne une autre raison. Tu dois savoir que tu as été esclave en Égypte et que moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'y ai fait sortir par ma main puissante. Quel est ce 7e jour? Est-ce que nous connaissons ce 7e jour dont Dieu parle? La Bible ne donne pas les noms des jours. La Bible dit, premier jour, il créa ceci, ceci, ce fut le premier jour. Il créa ceci, ceci, il y est soir et il y est matin, deuxième jour. Le 3e jour, 4e jour, 5e, 6e jour, le 7e jour, l'Éternel se reposa de l'œuvre qu'il aurait faite pendant. Il est difficile de savoir si le premier jour c'était le lundi ou le mardi ou le mercredi. Parce que dans la Bible, les mots lundi, mardi, mercredi n'existaient pas. Même Jésus, quand il est ressuscité, on dit, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que c'est Constantin le Grand. Constantin le Grand, c'est lui qui a donné les noms aux jours. Les noms-là que nous connaissons, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce ne sont pas des noms bibliques. Ce sont des noms, d'ailleurs, entre guillemets, ce sont des noms des dieux païens. Voilà. Ce sont des noms des dieux païens. Et Sunday, le jour du soleil, où on doit vénérer les dieux soleil. Saturday, le jour où on doit vénérer les dieux Saturne. Vendredi, les dieux Vénus. Jeudi, les dieux Jupiter. Mercredi, les dieux Mercure. Avec la conversion de Constantin le Grand, c'était quand même très bon et très bien lorsque le christianisme a été en mesure d'influencer même les appellations du monde. Christ qui nous a apporté la lumière par sa résurrection, Christ qui nous a apporté la vie par sa résurrection, nous devons maintenant, au lieu de vénérer le Dieu soleil qui apporte le soleil et la lumière, nous devons maintenant vénérer le Christ qui a la vraie lumière et la vraie vie. C'est pourquoi le jour du sabbat, bon, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. L'Éternel, il dit, reposez-vous. Alors, quand on dit Christ est ressuscité le premier jour, parce que entre le jour où il a été mis au tombeau, il a fallu que le sabbat passe pour qu'il ressuscite le premier jour. C'est pourquoi dans notre appellation d'aujourd'hui, nous pouvons dire Christ a été arrêté le 5e jour, SRT jeudi, dans notre appellation. Il a directement été jugé et déjà le 6e jour, le vendredi, il a été condamné et mis à mort. La Bible dit qu'il fallait que Joseph d'Arimathée vienne enterrer avant que les heures du sabbat n'approchent. Alors, il a été enterré. Après le sabbat, le premier jour, c'était maintenant le dimanche. C'était maintenant le dimanche. Bon, je dis dans notre appellation d'aujourd'hui, mais la Bible dit que c'était le premier jour. Il est ressuscité. Alors, quand les adventistes prient le jour du sabbat, ils respectent le jour du sabbat, ils respectent la loi qui est dans la Bible, dans le décalogue, dans les 10 commandements que nous venons de lire, ils ont raison. Ils ont raison de méditer la parole de Dieu ces jours-là. Parce qu'ils doivent se souvenir que l'Éternel avait créé. Mais malheureusement aussi, il ne le faut pas tel que ça doit se faire. Parce que, un exemple, le jour du sabbat, normalement, tu ne dois pas marcher plus de 1 km. Ce jour-là, un vrai juif, il prend une pierre, il jette la pierre. Toute la journée, il doit passer la journée là-bas, dans cet rayon. Mais les adventistes aujourd'hui, il est de Goma ville ici, les jours du sabbat, il va prier à Mugunga. Il va à Sake. C'est combien de kilomètres? Déjà avec ça, c'est ça le problème de la loi. C'est le problème de la loi. Alors, si l'Éternel peut permettre que en Exode, on dise que vous allez vous souvenir du jour du sabbat parce que j'ai créé pendant 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. Deutéronome change la donne. Vous allez respecter le 7e jour parce que vous allez vous souvenir que vous avez été esclave en Égypte. Donc lorsque vous venez, vous célébrez votre libération. Ceci m'amène quand même à dire quelque chose aux amis de la CBK, nous qui sommes ici. Nous avons souvent du mal à accepter le changement qui nous arrive. En éclair d'œil, là, le changement est passé. On peut célébrer une chose aujourd'hui pour telle raison, et demain, par rapport au contexte qui arrive, on peut célébrer une autre chose, la même chose, mais dans une autre dimension. Jésus avait dit à ses disciples, « Vous qui avez cru en moi, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. » Si vous voulez que nous ayons des problèmes dans cette paroisse, c'est question de dire, « Bon, nous allons démolir ce temple et nous construisons un autre temple. » Basse. « Jovile, mitubisharibika ukuchini, muenda ona kamari namunaga. » Non, ce temple-là avait été construit et ça doit rester comme ça. Il y a des gens qui sont liés par la tradition. Des gens qui sont liés par le corobianisme. Ils ne sont pas capables de changer. Ils restent toujours cloués sur place. Ils restent cloués sur place. Mais un même événement, l'Éternel a permis que ça change. Alors, le sabbat, c'est tous les jours. Tous les jours que nous avons et que le Seigneur nous donne. Ça, je vais lire, peut-être pour finir, nous sommes en train de finir, à Marc chapitre 2, le verset 27 jusqu'à 28. Marc chapitre 2, le verset 27 jusqu'à 28. Je peux commencer au verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Le pharisien lui dit, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant les sabbats. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger? Et adonna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est le maître même du sabbat. Nous ne devons plus rester dans des discussions vaines de dire que ceux-ci respectent le sabbat et ceux-ci ne respectent pas le sabbat. Le vrai sabbat, c'est en Jésus-Christ qui est le maître du sabbat. Lorsque nous croyons en Christ, lui qui nous donne le repos, alors nous restons dans le repos. Ce qui signifie que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous sommes dans le sabbat. Nous marchons avec la paix du Christ. Nous devons reconnaître qu'en lui, oui, le Seigneur est grand. En lui, nous avons été libérés. Nous sommes sortis de l'Égypte. Notre Égypte, c'était le péché. Le joug du diable. Et l'Éternel, dans son plan du salut, dans son plan qu'il a établi lui-même par sa seule force, par son seul conseil, il a fait de nous ses enfants qui sont en repos. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de chaque jour, nous devons savoir respecter le jour du sabbat. Nous devons voir si le respect des jours du sabbat va équivaloir ici au respect, à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans votre vie. Lorsque vous êtes dans votre boutique la souveraineté de Dieu doit y régner. Lorsque vous êtes à l'université, la souveraineté de Dieu doit y régner. Et là, vous allez vivre sans problème parce que vous serez sûr que l'Éternel est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, je suis en train de nous rappeler que le Seigneur qui nous donne la loi ou qui nous aide à marcher avec lui, c'est un Seigneur grand, redoutable, saint et qui nous demande de croire en lui parce que c'est lui notre protection. Chaque fois que nous pouvons être menacés par les choses de ce monde qui peuvent nous amener à aller de l'autre côté de la foi, qui peuvent nous amener à nous construire des images à sa place, l'Éternel nous dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir du joug du diable. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Nous allons nous mettre debout pour la prière. La chorale, vous pouvez prendre le microphone, aidez-moi avec ce cantique en swahili.
Maisha yangu ni mupe nani, maisha yangu yote ni mupe Yesu atawale. Maisha yangu ni mupe nani, maisha yangu yote ni mupe Yesu. Maisha yangu umpe nani, maisha yangu yote ni umpe Yesu atawale. Maisha yangu
bien-aimé
ni umpe nani,
pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique, je te demande d'ouvrir ta bouche. Dis merci à Dieu qui t'a fait sortir de ton Égypte. Ton Égypte qui est ton état de péché. Un moment où tu ne pouvais rien faire. Mais l'Éternel t'a fait sortir de la servitude pour que tu aies le repos. Le repos que nous avons en Jésus-Christ. Je t'invite à ouvrir ta bouche pour dire merci à Dieu, mais aussi reconnaître ce que tu es, quelle est la place que tu donnes à Dieu. Dieu a quelle place? N'y a-t-il pas des images que tu te tailles? Tu n'as pas la foi. Quelquefois tu vas à côté. Tu mets ta confiance dans les créatures. Je te demande, bien-aimé, de revisiter ta vie. L'Éternel est prêt pour t'accueillir. Cet Éternel qui a été en mesure de fondre même la mer pour que les enfants d'Israël passent. C'est pourquoi je te demande de reconnaître ce que l'Éternel a été pour toi. Sûrement il a été pour toi pour quelque chose depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Il a été quelqu'un dans ta famille. Il a été quelqu'un dans ta profession et il se manifestait à toi. C'est pourquoi ce moment ici, c'est un moment de reconnaissance, mais aussi un moment d'introspection.
Ujana wangu namba Yesu atawale, jamaa yangu
Sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce beau moment que tu viens de nous donner. Nous te glorifions de ce que tu es, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu qui fait des prodiges. Tu t'es souvenu de nous lorsque nous étions loin de ta face. Tu as fait une alliance avec nous. Tu marches avec nous. Tu es fidèle à ta promesse, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons reconnaître là où tu nous as tirés, Seigneur. Nous étions errants comme des brebis, mais Seigneur, tu nous as rassemblés. Nous étions dans la servitude du péché. Nous avons été esclaves du diable. Seigneur, tu nous y as tirés pour faire de nous tes enfants libres, des enfants qui marchent avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin que tu nous rappelles toujours, chaque jour, ce que tu as été pour nous. Pour que, à notre place, à nos côtés, nous puissions aussi t'adorer. Nous puissions te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, Seigneur, qui mérite. Sois loué à jamais. Sois béni, Seigneur, dans la vie de tout chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions.